Bonjour et bienvenue dans la bande originale avec aujourd'hui Guillermo Guiz. Tom Villa.
Bonjour.
Albert, bonjour. Et nous sommes toujours sans Nagui, mais ça ne m'empêche pas de vous souhaiter à tous une très très bonne année.
Bonne année.
Je suis avec l'excellentissime Leïla Kaddour Boudadi.
Bonne année, Leïla. Salut à tous, c'est notre invité dans la bande originale.
C'est qui ?
C'est François Morel.
Oh là là, oh là là,
François Morel.
Alors, on se fait un petit cadeau, on commence avec vous, quasiment l'année, François. Comment ça va ?
Bah, excellemment.
Excellemment, vous venez avec une grosse actualité, on va parler essentiellement de la vie. Ce livre CD, on a eu la chance de vous voir sur scène il y a quelques temps. Vous êtes en tournée.
Toujours.
Alors, vous sillonnez la France. Oui. Quelques dates comme ça. Début janvier, le 9 et 10, Albi, Belfort. Vous passerez par Thonon, par Annecy, par Angoulême, la Souterraine. Bref.
Mésidon,
La Châtre.
La tournée est à l'assaut.
Aix-en-Provence.
T'as un jeu de mots à faire sur Mésidon ?
Du tout. Je laisse ça aux professionnels du rire, Guillermo. Dans le spectacle est formidable. Je vais le signaler à tout le monde. Au point virgule.
Et vous finirez, François, en beauté à l'Olympia. Ce sera le 4 mai.
Oui.
Comment vous abordez toutes ces dates, cette tournée, toujours avec autant de
avec
joie ?
Avec dégoût.
Avec ennui. J'ai énormément de plaisir à jouer ce spectacle, d'autant que je fais chanteur, quoi, vraiment chanteur, un récital un peu à l'ancienne, avec des souvenirs d'images d'Yves Montand, de Serge Reggiani qui débarquait dans un rond de lumière devant un rideau de tulle. Et j'adore ce spectacle que Juliette a mis en scène et que Antoine Salaire a mis en musique.
Et quelle musique ! Parce que c'est vrai, François Morel, on vous présente comme comédien, le plus souvent, comme chroniqueur aussi, parce que vous êtes de la maison. Tous les vendredis à 8h55, on a la joie de vous entendre.
Je vous remercie.
Et oui, souvent. Et
puis le bonheur.
Et oui, le bonheur, parce que vos chroniques sont toujours assez détonnantes. Elles nous emmènent ailleurs, dans des moments parfois un peu sombres de l'actualité.
Quelqu'un ne revient pas.
Et on se dit, 8h55, chouette, il y aura François Morel. Et maintenant, on découvre le chanteur dans tous les sens du terme, parce que vous êtes... La vie, en fait, c'est un tour de chant. C'est pas juste un homme derrière un micro. Il y a tout un travail et un univers que vous nous présentez.
Je sais, oui. Oui, c'est ça. J'avais envie de rendre hommage au musical qui, moi, m'a fait vibrer. Et puis aussi, j'ai un vrai goût pour la chanson, pour l'écriture de chansons. Je pense que je suis mieux dans les choses courtes que dans les choses trop longues.
Ce que dit Morin, souvent.
Oui.
Ça va mal.
Je ne parlais pas de ma sexualité.
2018 commence très bien.
On commence très bien l'année. Bonne année à tous.
On va écouter quelques petits extraits. Par exemple, c'est la chanson qui ouvre cet album. La vie, la vie, la vie.
Ah oui. Au début des cris, et puis le vide, silence. Quand ça disparaît, comme par magie. On ne sait jamais pourquoi ça commence. On ne sait pas plus.
Ou encore ce baiser.
Ce doux baiser que j'ai gardé au bout des lèvres, au bout du cœur. Ne m'a jamais, jamais quitté. J'en fus l'unique possesseur. J'ai peur qu'il manque à vos années. Mais cependant ardente, voulez-vous le récupérer ?
On va continuer au cours de cette émission à vous faire entendre quelques extraits de ces titres de François Morel. Ce sont des textes que vous avez écrits vous-même, tous ?
La plupart, oui. Ouais. Antoine Salaire en a écrit quelques-uns aussi. Il y a une reprise de Jacques Brel,
ouais.
au suivant. Le spectacle.
Ouais.
Voilà, c'est tout, je crois.
Et tous ces textes-là, vous les avez écrits avec le temps, progressivement,
avec
vous
le temps,
dit,
non, c'est pas lui.
Où
là,
vous
c'est
êtes
pas
dit, et vous vous, si, êtes, vous vous êtes dit, à un moment, voilà, je veux me lancer, je veux aller sur scène, alors je me mets à écrire.
Ouais, en fait, j'ai écrit des chansons depuis assez longtemps, même quand j'avais 20 ans, j'ai écrit quelques chansons. J'en ai réécrit une avec Hubert Mounier en 96, le gars de l'affaire Louis Trieu que j'aimais beaucoup, et on a gardé la chanson de côté pendant 20 ans, et puis on s'est dit, tiens, fin mai, on l'enregistre, le 22 mai. Mais on avait pris un studio pour enregistrer la chanson. Et début mai, en allumant la télévision, j'ai compris que je ne ferais jamais le duo avec Hubert Mounier, qui était un type délicieux, qui était un grand musicien et que j'aimais beaucoup. Et c'est Louis Chédid qui l'a remplacé au pied levé.
Oui, vous lui rendez hommage dans la vie. Entre parenthèses, titre provisoire, parce qu'elle ne tient pas à grand-chose.
Alors, je dois dire un truc aussi, c'est que le titre a été volé, mais sans le savoir, à un écrivain qui s'appelait Jacques-Alain Léger, qui avait écrit « Ma vie, titre provisoire ». Et c'est, je crois que le titre m'a été suggéré par mon ami Antoine Salaire, et à l'époque, j'avais oublié, en fait, ça m'est revenu après, que Jacques-Alain Léger avait écrit une autobiographie qui s'appelait « Ma vie, titre provisoire », donc je lui rends hommage.
Et c'est un très beau livre, parce qu'on n'a pas simplement juste les textes, Il y a un vrai travail de photos commentées par vos soins, toujours, avec un peu de dérision, le plus souvent.
Je ne suis pas ennemi de la dérision.
J'ai raison, elle vous le rend bien, d'ailleurs. De très belles photos. Vous êtes photogénique.
Très.
Ouais, moi, j'aime beaucoup. J'ai découpé.
Et cette chanson en duo avec Lou Chédid, c'est encore long, l'enfance.
C'est encore long.
Et au début du livre, François, il y a une sorte de carnet de bord de l'artiste qui s'est longtemps défendu d'être un chanteur, mais qui accepte tout d'un coup de devenir un chanteur. Ça a mis beaucoup de temps, ça ?
Oui, j'ai mis beaucoup de temps à dire aussi que j'étais comédien.
Ouais.
Au début, je me faisais engueuler par une partenaire qui s'appelait Marina Tomé. Et je disais, je suis élève comédien. Elle dit, mais arrête, t'es pas élève comédien, t'es comédien. On vend le spectacle, c'est professionnel, passe professionnel. Donc, je mets un certain temps. Je suis assez lent, je suis assez diesel, moi. Et bah, oui, et puis Mais les gens souvent quittent le spectacle en disant « Oh ben non, on savait pas que ce serait aussi bien ». Donc ça, je suis plutôt content. Mais
on voit que les gens n'ont aucune confiance.
Les gens n'ont aucune confiance.
Les gens n'ont toute confiance.
Alors ils se disent « Bon, tant pis, il va faire comme il peut, mais enfin, on s'attend pas à des merveilles ». Et puis finalement, des fois, ils disent « Oh ben Dieu, ils nous ont embarqués ».
Dites donc, vous seriez pas professionnel.
Bah oui, j'essaie.
Tout doucement. Dans ce grand livre du spectacle, François, vous nous racontez vraiment les détails de la tournée. Ça passe par le Catherine, dommage que Nagui ne soit pas là parce qu'il a quand même une grosse importance au Catherine.
Deux important. Trucs qu'il aime, le Catherine et les pompes. Les chaussures.
Ah oui.
C'est deux passions.
Alors le Catherine, vous détaillez même le contenu. Hein. Mmh. Vache qui rit, miel, thé, café, tranche de jambon sous vide. Ça a l'air d'être la vie rêvée de l'artiste, ça.
Ça dépend des fois. Mais je sais qu'il y a des artistes qui ont des exigences très précises, ce qui n'est pas mon cas.
Non.
J'essaie d'éviter.
Vache qui rit, on sent le capricieux quand même.
Le caprice des dieux aussi.
Ah, on ne se refuse rien.
Et pourquoi ce texte finalement, François, au début du livre-album La Vie ?
Bon, c'était pour raconter un peu les coulisses de la fabrication d'un spectacle, la tournée aussi, pourquoi on chante ces chansons-là, comment les chansons naissent. Et c'était aussi un peu une façon de rendre hommage aux gens qui travaillaient avec moi, notamment Valérie Lévy, Corinne Onickman, qui nous a quittés, avec qui j'avais fait ma petite maison de production. Et c'était aussi un salut extrêmement affectueux.
Ben c'est réussi, c'est réussi.
Moi, ce que j'aime bien avec François Morel, c'est que là, bon, on est en train de faire des blagues, tout ça. Je dis que je ne suis pas professionnel, mais derrière, il y a surtout l'humilité, la simplicité. Et vous me dites si je me trompe, et je crois que quand on vous a remis une certaine décoration, quand vous avez fait votre petit speak, vous avez dit « je veux être futile ».
Ah oui, j'ai conclu comme ça.
Ouais, je veux être futile à la France. Ouais. Je pensais que ça donnait une bonne image, une image du personnage.
Ben c'est Monsieur Jospin qui avait dit peu de temps avant, je veux être utile à la
France.
Oui, c'est pour ça. Un peu détourné la phrase.
Et ben justement, dans les trucs futiles et parfois inutiles, il y a une très belle chanson.
La date de naissance, date d'amour,
1er novembre 43. Le nom du chien de Belmondo.
Fini. La taille du général de Gaulle.
1m96.
La préférée d'Helmut Kohl.
Petite bœuf marinée.
Le nom de mon ancien collège.
Sainte-Marie la Flaire. Les sous-préfectures de l'Ariège.
Saint-Giron-Pamiers.
La pointure de ma tante Gisèle.
Elle fait 47.
La densité de la Rochelle.
En duo avec Antoine Salaire, en tout cas on reconnaît la voix d'Antoine Salaire. Vous êtes de ce genre-là, d'homme, qui a une sorte d'hypermnésie, des choses qui ne servent à rien ?
Je vois un certain nombre de choses, mais en l'occurrence la chanson a été écrite par Antoine. Là. Mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui encombrent mon esprit qui sont absolument inutiles.
Tiens, on va parler de trucs inutiles. Non. Il est un peu trop facile et trop méchant. Tom Villa,
oui.
Est-ce que vous savez pourquoi ?
Mais oui, on reçoit François Morel pour son livre, vous l'avez dit, livre CD, La vie, entre parenthèses, titre provisoire.
Ouais.
Voilà. Bien. Alors là, normalement, une fois que j'ai dit ça, je suis censé enchaîner avec une chronique sur l'invité ou sur son actu.
Comme vous voulez. Hein.
Avec vous, François Morel, je suis vraiment embêté. Enfin, je vous aime beaucoup, c'est pas le problème. Enfin, si, d'ailleurs, c'est ça le problème, parce que je vous aime beaucoup, mais comme nous sommes tous les deux sur France Inter, du coup, quoi que je dise, ça va paraître suspect. Hein. Alors pourtant, on fait rarement de promos des gens qui bossent sur France Inter. Bon, il y a eu Bernard Guetta en septembre, il y a eu Frédéric Lodéon la semaine dernière, mais voilà. Bon, on a Nicolas Demorand la semaine prochaine, il y a Salamé dans trois semaines, Ali Rebeilly début février, et Marcel de la cantine qui part en prêt dans un mois et demi, c'est vrai.
22 ans à servir de la purée et de la ratatouille.
Et demain, André Manoukian.
Bah oui, ah, Marcel, on peut bien lui faire une spéciale. Mais c'est vrai que sinon, ça n'arrive que très rarement. En plus, on est le 2 janvier. Donc de toute façon, les auditeurs un peu avertis se disent deux choses. Soit c'est pour faire copain-copain, ou François Morel, le France Inter, invité sur France Inter un 2 janvier, il y a eu un désistement. Ni l'un ni l'autre. C'est pour ça qu'on a joué quand même la carte de l'autopromo, mais un peu, sur une date un petit peu cachée. Et d'ailleurs, on fait un coucou à tous les auditeurs qui nous écoutent. On embrasse les trois personnes. tous ceux qui n'ont pas posé de RTT. Donc voilà un petit manuel pour savoir comment s'exprimer à propos d'un collègue en public sans passer pour un lèche-cul. Hein, déjà, on va se vouvoyer. Alors ça tombe bien parce qu'on se connaît pas. On n'a jamais eu l'occasion de se croiser. Hein, vous officiez dans la matinale, moi, à 11h. Voilà, quand vous partez de la maison de la radio, moi, je suis en train de prendre mon petit-déj, donc on se croise pas. Vous êtes dans une émission d'actu, nous, au divertissement. Vous connaissez l'adage, on mélange pas les torchons et l'information. Donc, vouvoiement d'usage, pour pas faire complaisant, au lieu de dire j'ai adoré votre album, je vais dire je l'ai pas écouté, en plus j'en pense beaucoup de mal, comme Christine Angot. C'est le souci quand tu dois faire un discours à un collègue de bureau, c'est vrai, on l'a tous vécu ce moment, j'avais un peu gênant, où tu dois prendre la parole. Bon, là c'est à la radio, mais c'est pareil dans les pots de départ, tu te sens obligé de dire des trucs un peu sympas alors que... Des fois, t'as pas envie. Des fois, tu sors des phrases toutes faites comme tiens, Daniel, t'étais un peu le rayon de soleil qui éclaire nos journées. C'est vrai que ça sera toujours plus sympa que bah, Daniel, t'es comme le néon du bureau, tu mets du temps à t'allumer, tu nous niques les yeux. Bah, hein, on peut compléter par ton humour fin et délicat a fait le bonheur de chacun d'entre nous. Tu vas nous manquer, Daniel. Bon, le problème, c'est que ça fait un peu oraison funèbre, donc c'est un peu bizarre. Discours d'enterrement où on dit très souvent d'ailleurs, c'était un homme bon et attentionné, hein, alors que bien souvent, c'était un gros con qui pensait qu'il y a sa gueule. Bon, bref, c'est un autre détail. Donc, c'est compliqué ma situation. Les gens vont se dire ah, bah, ça se passe de la pommade dans le dos, bravo les bobos, bravo le service public, c'est la consanguinité à tous les étages, Villa Morel, de toute façon, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, et puis on n'est plus chez nous, bientôt on va m'obliger à faire le ramadan. Bon bref, oui, l'auditeur qui a du temps à perdre à critiquer les animateurs du service public, qui est souvent le même qui craint qu'on remplace son sapin de Noël par une maquette de mosquée miniature. Bref, François Morel, pour la pommade, je fais confiance à Daniel.
Ah,
il est très doux.
Très doux. Je suis prêt.
Même si dans le fond, j'ai très envie de citer une phrase de votre ami Louis Chédid, hein, on dit jamais assez aux gens qu'on aime par peur de les gêner et qu'on les aime. Alors François, je ne vais pas vous gêner, mais je n'en pense pas moins.
Bravo. Merci Tom Villard. France Inter.
La bande originale. François Morel qui sera le 28 mars à Cahors. Je tenais à le signaler.
C'est complètement arbitraire.
Voilà. Mais non, j'embrasse les Cadurciens.
Donc voilà, à Cahors pour être sur scène, pour la vie. Et si vous ne pouvez pas voir François lors de ces dates de tournée, vous pouvez toujours
voir
faire l'acquisition. On y viendra après, à toi, mon Guillermo. Faire l'acquisition de La Vie, titre provisoire. La Vie, cette balade-là, et à travers ces chansons, François, tantôt, vous êtes un enfant, tantôt vous êtes une maîtresse sexy, et ça c'est une chanson qui a...
Moi je suis une maîtresse.
Oui, bah, pour vous donner à entendre en tout cas...
Vous donner envie aussi.
Ah oui, bah, vous donner envie. Mais vraiment Daniel me parle de cette chanson depuis un petit moment. C'est celle-ci, c'est Striptease. Ouf. Où est-elle?
Quand tu enlèves ton chemisier, j'ai chaud, je sourd. Quand tu dégrafes ton bustier, je n'en peux plus. Chaud. C'est chaud. Ton numéro. Ton intégral.
Je suis gêné. Il n'y a pas de rôle quand il y a de l'amour. Avec du poil autour.
Quand tu retires ta perruque.
Voilà, je voulais arriver à cette phrase pour Daniel.
C'est dommage, j'en aurais pu penser à toi quand tu parlais de retirer le dentier, mais bon, on verra ça tout à l'heure.
Ça viendra après, ma jambe de bois et éventuellement mes prothèses, si on va jusqu'au bout. Alors celle-ci, pour le coup, on est dans la tradition du crooner, mais détournée. Encore une fois, vous jouez toujours avec ces codes-là. On s'y attend pas, on se dit, tiens, l'intensité est en train de monter, n'est-ce pas Daniel?
Et bim, la perruque. C'est une chanson qui sert beaucoup en spectacle. peut-être plus encore que sur le disque. Moi, j'ai des fois les chansons un peu marrantes, on les écoute moins sur disque, mais elles font plaisir sur scène.
Et là, quand vous retirez votre dentier, il rigole.
Non, mais on imagine une effeuilleuse à l'Olympia, il y aura peut-être quelque chose. Non,
c'est l'autre qui retire son dentier, c'est moi qui retire le dentier.
Ouais, ben, ça nous emmène à, parce que vous venez nous présenter La Vie titre provisoire, mais aussi, et comme on est partenaire avec France Inter, Jamais la même chose, recueil de chroniques de 2015 à 2017, c'est aux éditions de Noël, où on trouve ainsi les textes que vous avez eu la douceur de composer et qui sont souvent très très drôles, et il y a un petit extrait un peu érotique. Non, parce que c'est pas que le but d'être drôle avec les chroniques.
Je vais dire un truc alors qui est pas de moi. Ouais. Mais je vais rendre hommage à Georges-Philippe Taladiar, alias Jean-Jacques Denis, qui est un poète. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait une musique un peu romantique, genre, je sais pas, qu'est-ce que vous avez en magasin ?
Oh là là.
Ouf.
Ça te va bien, ça.
Ça, c'est bien, ça, ouais. Ça, c'est chaud, ça.
On écoute François Morel.
Chaud, je sais pas, mais...
Lorsque je te pénètre, quand je rentre dans toi, quand je dois me soumettre en esclave à ta loi... Lorsque mon corps meurtri par des tâches futiles en toi se réfugie, quand enfin je t'enfile, je demande à la nuit d'ouvrir en grand ses bras. Ah, que serait ma vie sans toi, mon pyjama?
Excellent, excellent.
Georges-Philippe Taladiar. Hein.
François, vous serez en avril le 17, le 18 et le 19 à Brest. Pourquoi ?
À Brest, parce qu'il y a le Quartz.
C'est pour ça.
Et juste en face du Quartz, il y a le Vauban, où je vais chanter des chansons de Yves-Marie Le Guilvinec, qui est un auteur qui est peu chanté, je vous fais remarquer.
Mais grâce à vous, 17, 18, 19, il va reprendre vie, reprendre corps.
Peut-être un seul soir, parce que je pense qu'on va boire beaucoup de bière. Donc un seul soir suffira. Voilà, c'est plutôt de la bière.
Moi, il a vos petites oreilles, beaucoup sifflé, comme vous avez appris que François Morel était parmi nous en ce 2 janvier.
Et forcément, parce que François Morel, quand je pense à vous, je pense à une multitude de choses que nous tairons aujourd'hui à ce micro. Mais forcément, à une époque en particulier, une époque culte.
Est-ce que vous n'avez une papo mobile? Vous n'avez pas de papo mobile. Vous n'avez pas de papo mobile. Je dis chapeau. Je dis chapeau. Quand vous m'avez dit bonne année, monsieur Morel, bon, ben, c'est vrai, vous m'avez dit bonne année, monsieur Morel. Vous m'avez pas dit en 36 langues, place Saint-Pierre. Bon, ben, c'est ça, je dis chapeau. Dis au moins, c'est vrai, vous avez su rester, c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. C'est plus ça que je dis. Et?
Moi, je suis pas pape, hein.
Eh bien. Et en plus, vous n'êtes pas pape.
Les deux chiens, un classique. Et si je vous parle de
avec
cet
Bruno
extrait,
Locher, là, en l'occurrence.
Bruno Locher, absolument. Si je vous parle de cet extrait, c'est que on le retrouve sur un compte Facebook intitulé Les deux chiens attitude, qui diffuse des vidéos des deux chiens comme écho et commentaire à l'actualité.
Ouais, j'ai vu ça.
L'actualité du moment, revue par ces vidéos qui ont quand même quelques années.
Et tous les jours, ils trouvent une vidéo qui correspond à l'actualité.
Ouais. Et donc là, ça correspondait à la starification du pape François. Finalement, j'ai la sensation que vos sketchs, je ne sais pas ce que vous en pensez, sont assez intemporels et continuent politiquement à agiter.
Ouais, je sais pas, je me rends pas tout à fait compte de ça, mais c'est vrai que pendant une certaine période, on ne les a plus écoutés du tout, et là, ça revient en masse. Il se trouve, j'en ai fait une avec Trapenard il y a pas longtemps dans son émission.
21 centimètres.
Laurent Gérard sur RTL m'a demandé de venir en faire.
Connais le type qui les écrivait.
Ouais, mais c'est un gars. Pour Laurent Gérard.
Oui, je connais très bien. Oui.
D'ailleurs, ça a beaucoup baissé maintenant.
C'est ce qu'on m'a dit.
Donc, ça veut dire qu'il y a une sorte de retour des chiens. On vous demande, on a envie de refaire vivre cette famille un petit peu particulière.
Oui, et puis ça nous fait plaisir de réécouter ça et de temps en temps.
Oui. J'ai si même... tu me permets, je crois que ça tient à la route parce qu'il y a une part de burlesque très forte qui transcende justement, qui dépasse le temps et qui font que ce n'est pas plombé par l'actualité.
Ouais.
Et ce qui leur donne une pérennité. C'est ce qu'il y a une part de burlesque, de grotesque absolument extraordinaire.
On était assez en dehors de l'actualité. Puis c'est-à-dire que souvent, on les enregistrait assez longtemps en avance puisqu'on était surtout pris par le théâtre. Donc, on n'était pas obligé de coller à l'actualité. Voilà. Donc, finalement... Oui, ça colle à peu près à toutes les actualités. Il y a toujours un pape, il y en avait un des chats, il y en aura un dans 20 ans, donc on pourrait dire que tu n'es pas pape.
Tu n'es pas
puis pape. C'est des gens vrais. Enfin, il n'y avait pas le côté perruque. Enfin, c'était très sincère comme personnage finalement. On a pu les croiser ces gens-là.
Oui. Les gens pensaient qu'on était le premier spectacle qu'on avait fait, c'était Lapin Chasseur, et les gens étaient persuadés qu'on venait vraiment qu'on avait fait l'école hôtelière, etc. Et nous qui avions un peu envie d'être comédien, on disait non, pas du tout. On a fait des
c'était
études.
Des pièces réglées au cordeau, à la seconde, au millimètre.
Ouais. Mais pour des amateurs, c'était bien joué.
Ouais. Merci.
Vivement qu'ils deviennent professionnels. Alors, ouais.
Et pour revenir à cette dimension politique, on dit, et je l'ai lu à de multiples reprises, qu'en 2002, les Deschiens auraient été d'une certaine façon responsables de l'échec de Jospin.
Je pense qu'il y a deux, trois raisons autres que...
Non, mais il y a les siennes. Il y a
Canal
les siennes,
entre Chirac pour les Guignols.
À 80%, il paraît.
Je crois qu'il y avait Mme Taubira qui s'était présentée aussi. Ouais. Il y avait Chevènement. Non, pas à l'époque. Monsieur Chevènement aussi. Donc, je pense qu'il y avait deux, trois raisons qui faisaient que la gauche n'était pas bien rassemblée en 2002, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, qui vit une période florissante.
Non, mais c'était une façon aussi de venir contester.
Non, mais parce que je crois parce qu'on nous accusait de nous moquer des pauvres et d'autoriser la gauche à se moquer des pauvres.
C'était la critique qui était faite.
Donc c'était la critique qui était faite, mais notre projet n'était pas exactement sociologique.
Pas de projet sociologique, rien que de l'humour de la chanson. C'est François Morel qui est notre invité jusqu'à midi et demi dans la bande originale. Son Little qui nous chante Oh Me, Oh My. Oh My Son Little dans la bande originale sur France Inter.
Une petite date de tournée, François Morel.
Attendez, ça vient, bande de gourmands, bande de petits gourmands. Nous sommes avec François Morel, sans Nagui qui, évidemment.
Mais
est
il
parti.
Est où, Nagui?
Ah, il est parti dans un endroit exotique.
Et François Morel vient nous présenter la vie titre provisoire sur ce livre CD.
Au début des cris et puis le silence, quand ça disparaît comme par magie.
La vie, la vie, la vie, ce baiser, j'adore cette chanson.
au bout des lèvres, au bout
c'est
des
vrai.
Îles. Qu'on n'a jamais, jamais quitté.
Ah, écoutez, avant ce riptide. Il y a du Reggiani, quoi. C'est fou.
J'ai peur qu'il manque à vos années.
Une des chansons préférées de Daniel aussi.
Ça aurait pu être chanté par
Reggiani. Avant la stripteaseuse.
J'aurais aimé.
Au cinéma, ouais. Comment j'adore. Qu'ils font. Comment qu'ils font pour les baisers si longs. Pour les baisers technicolores. Avec de beaux décors, baisers profonds de cinéma qui n'en finissent pas sur grand écran, cinémascope.
Et une qui est exceptionnelle à voir sur scène, c'est enfin, selon la police.
Selon les organisateurs, à convoiter son regard.
Selon la police,
deux ah ou oui. trois ringards militantes très engagées.
Selon les organisateurs,
elle tutoyait José Bové.
Selon la police,
fallait la surveiller. Et qu'il y avait défilé.
Il y a aussi des titres sur cet album, François Morel, qui sont un peu plus, comment dire, qui incitent un peu à pleurer, enfin, oh, qui touchent énormément.
Celui qui perd ses amis, c'est un étourdi. Celui qui perd son sang-froid, quelquefois c'est moi.
Bonne année à tous. Bonne année 78.
Attendez, écoutez.
Un enfant, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots.
Pour vous avoir vu sur scène avec ce titre-là, j'ai eu le même effet quand j'ai écouté l'album à la maison. Voilà, juste ce constat de la langue française où on est orphelin.
Quelqu'un d'autre avait fait ce constat avant moi, c'est Linda Lemay. Et je ne connaissais pas sa chanson. Quand ouais. on a commencé à la chanter en public, il y a des spectateurs qui m'ont dit « Mais vous l'avez écrite avec Linda Lemay, cette chanson ?» Et j'ai dit « Non, pas du tout. » Je ne connaissais pas.
Qui
est cette dame ? Non, je la connaissais, mais je ne connaissais pas cette chanson. Donc j'avais envoyé un mot à Gérard Davoust et à Linda Lemay pour leur demander l'autorisation de chanter cette chanson. Et très gentiment, elle m'a dit « Mais les idées appartiennent à tout le monde, donc allez-y. » Ce qui était très classe
élégant.
De sa part.
Ouais, très élégant. Cette chanson raconte vraiment cette idée que la langue française nous laisse orphelines sur certaines pertes dans la vie. On n'a pas de terme pour désigner un parent qui perd un enfant.
Et en fait, après, on m'a dit, il y a d'autres mots aussi qui n'existent
c'est vrai.
Pas. Et ben, oui, en fait, et c'est Daniel Pénac qui est un peu spécialiste de tous ces mots manquants comme ça et qui existent parfois dans d'autres pays. Et il fait toute une étude là-dessus qui est vraiment intéressante. Quand on perd un frère ou une sœur, il n'y a pas non plus de mots.
Mais quand on perd son portefeuille, c'est...
Voilà, on est un tête en l'air.
C'est ça. Il y a toute une... Moi, ce qui m'a beaucoup touché, François, c'est cette diversité-là. On sent le plaisir, on sent...
Ce que j'aime bien aussi, c'est de pouvoir, même à l'intérieur d'une même chanson, faire rigoler, faire pleurer. Ouais. Ça, j'adore ça. Il y a une chanson qui s'appelle « Le petit préféré », une vieille dame, enfin, c'est les derniers moments d'une vieille dame, et au milieu de la chanson, elle raconte le feuilleton qu'elle vient de voir, où elle est vraiment triste parce qu'ils sont en train de se séparer, tout ça. Et en scène, j'adore aller jusqu'à l'éclat de rire, et puis après, juste à revenir à l'émotion pure.
Allez, un peu sadique, un petit extrait.
Ouais. Salaud.
On aurait bien aimé encore te parler. Entre nous, tu étais son petit préféré. Elle a mis la télé, amour, gloire et beauté. Elle était triste un peu quand elle a su qu'Audrey désirait avorter, alors que pour Édouard, cet enfant était inespéré vu qu'il avait perdu sa première femme qui était morte dans un accident d'hydravion. Audrey, c'est ce que lui a dit Édouard, elle approche de la quarantaine. Mais alors, ce qui compte pour Audrey, c'est sa carrière. C'est des gens, si vous voulez, qui auraient tout pour être heureux, mais son feuilleton fini, elle a débarrassé la table où elle a pris.
Voilà, l'art d'insérer comme ça et de détourner, Daniel.
Tiens, on va parler de quelqu'un qui, les mots lui manquent aussi, dans son vocabulaire. Il a un physique de vieille dame, c'est Guillermo Guiz.
Pardon.
Bonjour les amis.
Non. Salut. Salut.
Ah, bonjour. Vous le savez, vous savez qu'on est le 2 janvier.
Oui.
Quand même.
Oui. Oui.
Alors, il vient de se réveiller. Lui.
La chance que j'ai, figurez-vous, c'est qu'avant-hier j'ai croisé ma voyante dans un sex shop. Je faisais des courses pour Leïla, des bricoles, du Yoplait, tout ça. Bim bam, une discussion s'enclenche. Et alors, je lui dis, tiens, tant qu'à faire, j'ai une voyante sous la main. Qu'est-ce qui va se passer en 2018? Et là, elle me dit, ah, c'est con, je suis pas en service. Je dis, ah, ouais, en effet, ça m'arrange. Elle me dit, allez quoi, si je te donne pas mes prévisions 2018, ta chronique s'arrête ici. Bah, j'ai sans blague. Contractuellement, je dois faire 3 minutes, 3:30, c'est l'idéal pour les droits d'auteur. Du coup, elle m'a donné quand même quelques annonces et des gros changements pour 2018. Quand même une année pleine de nouveautés, assez chic, je dois dire. Déjà, apparemment, le réchauffement climatique, c'est terminé. Ça va s'arrêter. Elle m'a dit, c'est pas encore sûr 100%, mais normalement, c'est bon. En 2018, la Terre arrête de se réchauffer. Il faudra prévoir un âge de corps au moins jusqu'à mi-juin, début juillet. L'action d'Amar prend 2%. J'ai lu la chronique de Tanguy Pastureau. Il va vous dire exactement le contraire plus tard dans l'émission. Mais est-ce qu'on peut faire confiance aux gens qui viennent d'RTL? C'est un peu chacun avec ça. C'est chacun avec sa conscience. Alors, quoi d'autre en 2018? Oui, la France va gagner la Coupe du Monde. Voilà. Bon. Alors, par contre, ce sera contre la Russie en finale et ça va déclencher une guerre. Plusieurs millions de morts. Mais assez peu de dégâts matériels, apparemment. Ça, c'est quand même une chance. Mulhouse va rester intact, curieusement. Alors, la bonne nouvelle, c'est que pour chanter la paix, Jean-Jacques Goldman va enfin sortir de sa retraite. Il va écrire un album complet pour Teddy Riner. Ce sera bon, ce sera pop. Et ça aidera les gens à aller mieux. Quoi d'autre? Le Brexit. Terminé. Ah. Voilà, les Anglais vont revenir, les excuses, tout ça, on a été cons, on savait pas, so sorry, machin, ça. Ah, donc l'Europe va dire, on oublie tout, mais vous nous filez en contrepartie les meilleurs joueurs de votre championnat. Deal, voilà, Eden Hazard à Guingamp, c'est pour dans 3 mois, donc achetez vos abonnements. Sinon, Dieu. Ouais. On va avoir des infos. Ah. Je peux pas en dire plus, malheureusement, la voyante m'a fait promettre, mais retenez bien ce nom pour 2018, Jean Glavany. C'est tout ce que j'ai à en dire. Pour remplacer,
comme les deux chiens en dehors de l'actu.
Quoi d'autre en 2018? Forcément, Macron démissionne et il reprend la tête de TF1. C'était son plan depuis le départ. C'était son plan depuis le départ pour remplacer Macron à la tête de l'Élysée, le choix du cœur, Tex. En protestation, France Inter part en grève toute l'année, sauf la bande originale, comme d'habitude, évidemment. Et forcément, la Nagui va faire 17 heures de direct par jour pendant 7 mois pour remplacer tous les animateurs de la chaîne, d'où forcément gros burn-out chez les auditeurs, je veux dire, qui arrêteront de payer la redevance. La privée de moyens, les médias de service public donneront vraiment la honte de la France, c'était le plan de Macron depuis le départ. Alors, quoi d'autre en politique française pour 2018? Manuel Valls aussi, gros changement cette année, il va se convertir à l'islam. Voilà, ça je l'avais dit à la voyante, il fallait pas faire +30, ça se sentait qu'il était refoulé, etc. Elle m'a fait, oui, mais tu me demandes, je te dis, moi elle m'emmerde pas, sinon je vais à la caisse payer mon brocoli et ta chronique s'arrête ici à 2 minutes 30. J'ai dit, ouais, c'est pas une raison. Quoi d'autre? Oui, les végétariens. Ils vont pouvoir remanger de la viande, apparemment. En fait, il y a un documentaire sur Netflix qui va pas sortir où les vaches admettent qu'elles sont OK, en fait. Elles disent, il faut pas toujours faire un dame pour tout et tout. Chacun doit participer à l'effort collectif. Pareil pour les poulets, ils disent qu'ils comprennent que c'est bon le poulet, que si c'était pas chelou pour eux de manger du poulet, ils mangeraient aussi du poulet. D'autres bouleversements 2018. Donald Trump arrête complètement Twitter pour se consacrer à Instagram. Voilà. Cool. Dorénavant, il va poster des photos et il faudra deviner ce qu'il a en tête. Voilà. Par exemple, il postera une photo de cannelloni. Ça voudra dire, voilà, va savoir. Mais ça sera quand même vachement plus ludique, il y aura un côté jeu de piste. Parlant de réseaux sociaux, 2018, Facebook devient payant, 1000 euros par mois. Voilà. Du coup, au lieu d'écrire de la merde, les gens passent leur temps à combattre le cancer. Fin du concert, 2018, grâce à Mark Zuckerberg qui reçoit enfin le poste qu'il mérite, pape. Pour le reste, je peux pas trop vous en dire plus, mais voilà, disons qu'en 2018, soit Daniel Morin, soit moi, on va gicler de la bande originale. Un indice, c'est le plus sale de nous deux. Allez, bonne émission.
C'était Guillermo. C'est toi. Non, pardon.
Sur France Inter.
Bon, Guillermo, ce spectacle qui est formidable.
Ouais, absolument, Daniel.
Que t'as lu combien de fois, j'ai lu une critique exceptionnelle dans le Canard Enchaîné qui m'a donné envie.
Ah, le mec, il écrit, il est formidable.
Et j'ai pas regretté.
C'est A.A. qui a signé la chronique.
On dira début d'Andouillette.
Donc c'est quoi ça? On va donner les dates. C'est le jeudi, c'est à partir du jeudi.
Jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à ce que mort s'en suive.
Voilà, mais c'est bientôt alors.
Et faut dire où c'est?
À 20h, au point virgule.
Au point virgule, à 20h.
C'est extrêmement drôle et il est très très bon sur scène, bien meilleur qu'à la radio.
On est bien d'accord.
C'est pas juste un physique, hein, c'est aussi. Et si vous voulez rire à Belfort le 17 janvier, n'hésitez pas, allez au Granit. Faites-vous plaisir, on retrouve François Morel.
Et ben on va aborder ensemble, François, quelques dates de votre vie mise en musique qui en commence en 81.
J'arriverai par l'ascenseur de 22h40.
Hubert Félix Tiefen.
Bravo, bonne réponse de François Morel.
Ouais. Allez, je l'avais vu, il avait une vingtaine d'années.
Fin des années 70, il était extraordinaire.
Bah moi aussi.
Ah ouais. Et il avait juste sa guitare, ouais. Il faisait les spectacles tout seul, et on le prenait un peu pour une espèce de Bobby Lapointe moderne. C'est-à-dire que tout ce côté sombre qui est apparu plus tard n'existait pas beaucoup
après,
à l'époque.
Côté surréaliste, ouais, ouais. C'est un grand admirateur des surréalistes.
Ah ouais, ouais. Il avait une présence de comique formidable. Je me souviens qu'il avait cassé une corde de sa guitare et pendant 7 minutes, il avait fait toute une improvisation qui était absolument... hilarante.
Mais il se produit aux deux ânes de temps en temps.
Avec Jacques Maillot. Oui. Ils font un duo ensemble. Ouais. Hein. Ouais, ouais. Et on le sait pas.
Stéphane et Maillot. Ouais,
ouais. Et en 81, François, vous êtes à Caen, à la fac.
Ah oui, je finis ma maîtrise de lettres.
C'est ça, lettres modernes, option théâtre.
Oui, oui, oui. Oui, oui.
Déjà. Ouais. Et vous inscrivez aussi à l'école, de,
l'école
de
la rue Blanche. Pardon.
Monsieur.
Ouais.
Seul humoriste de France Inter qui a un diplôme.
Je le signale. Qu'est-ce qui se passe pour basculer de l'un à l'autre? Parce qu'a priori, vous étiez parti pour enseigner.
Une voiture?
Non, l'envie, le désir. L'envie. Je faisais des spectacles en amateur et j'avais une approche livresque du théâtre, mais c'est pas ce qui me plaisait. Moi, en plus, j'ai l'impression de ne comprendre les pièces qu'avec mes pieds, c'est-à-dire quand je suis sur un plateau et que je l'ai dit. Donc, je me suis amusé beaucoup plus en étant à l'école de la rue Blanche qu'en faisant ma maîtrise de lettres, je dois dire. Et puis voilà, j'ai rencontré des gens formidables. Christine Scott-Thomas, qui était une jeune comédienne à qui j'offrais des cafés parce qu'elle était assez peu argentée à l'époque. Et qui énervait beaucoup les filles parce que tous les garçons la regardaient avec, admiration.
J'imagine. Et dans quel registre vous êtes senti le mieux à l'école de la rue Blanche?
Est-ce dans que...
le nu intégral.
Non,
à part le nu.
Ça,
à part le nu.
J'étais un peu le rigolo, moi.
Ouais.
Je faisais plutôt rire. Ouais.
C'était vraiment les choix que vous faisiez à l'époque déjà en disant je vais me diriger vers ça. Est-ce que
dit ça, mais ça venait comme ça, quoi. C'était un peu naturel. Moi j'ai du mal avec tous les spectacles où l'humour est absolument absent. Je trouve que l'humour c'est quand même ça fait du bien quand même. Non,
et vous écriviez déjà?
Un petit peu, ouais, j'écrivais, ouais. Ben, j'avais écrit ma maîtrise d'abord,
déjà, et puis
après
j'écrivais
des sketchs, j'avais travaillé, j'avais joué dans... J'avais écrit une lettre à Guy Bedos à l'époque en lui disant on a joué pour l'EDF à 12h30 la semaine dernière, la semaine prochaine on joue au club L'Albatros de Saint-Georges-des-Groseilliers et pas un mot de vous, rien, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Et puis vous ne nous avez pas invité à votre spectacle au gymnase. Et le lendemain, il y avait son attaché de presse qui nous a appelé, vous avez fait beaucoup rire monsieur Guy Bedos qui vous invite quand vous voulez.
C'est génial.
Et on s'était retrouvé dans sa loge.
Sympa.
Ah oui, très sympa. Et on s'était retrouvé dans sa loge, on était assez impressionné, on avait moins fait les malins là.
Et ça aurait pu être une carrière qui vous aurait plu à la Guy Bedos?
Non, ma carrière me plaît bien, moi. Je sais pas si c'est une carrière.
Non, mais une carrière de merde, donc...
Ouais. Moi, ça me va, moi. Moi, je sais pas ce que je pense de la politique.
Vous savez pas ce que vous pensez de la politique?
Pas toujours.
Pas toujours, ouais. C'est pas mal de pas avoir d'avis forcément très précis, d'ailleurs.
Je sais pas, c'est comme ça, c'est pas un choix.
Allez, 1995-1998, attention, on écoute.
Force de m'être cherché.
C'est Barbara, 2-1, elle est perdue. Bien joué, Tom.
À force de m'être cherché, c'est toi que j'ai perdu. C'est toi que j'ai perdu. Je t'ai perdu.
Bonne année à tous.
C'est un texte de
Guillaume Depardieu.
Ouais,
c'est un souvenir très précis. Mmh. Je jouais un film de Jean-Pierre Mocky avec Guillaume Depardieu, et il a reçu la cassette pendant le tournage. On était dans une voiture et il a mis cette cassette dans la voiture. On l'a écouté tous les deux. C'était un joli moment parce qu'il y avait vraiment l'objet, quoi. Bien sûr qu'il connaissait l'enregistrement, mais on l'a écouté ensemble et c'était un beau moment. Et c'est une très très jolie chanson que d'ailleurs son père a très bien repris.
Le cirque d'hiver, absolument. Qui prend une autre dimension, un autre
sens.
Un autre sens. Dans ces années 95-98, François, c'est France Inter et c'est le cinéma. Vous commencez sur l'antenne de France Inter avec,
déjà,
ouais, avec un rendez-vous hebdomadaire qu'on vous propose. C'est mieux que rien.
Ah oui, d'accord. Ah oui, j'avais oublié.
Et ouais.
Mais non, ça c'était c'était hebdomadaire. Non, je crois que c'était une émission de vacances, il me semble, je crois.
Et alors, quelle était l'idée de
ces personne ne voulait travailler. Donc...
C'est-à-dire, c'était pas très long. Hein. L'émission, elle devait durer 5 minutes et le générique était plus long que l'émission en elle-même.
C'est l'escroc.
Et c'est vous qui aviez écrit les paroles.
Une émission avec Marie-Annick Rimbaud, c'est le moment où. Oh, c'était un peu dans l'esprit des proches. Dans l'émission, enfin l'interview de Sagan par des proches, ce qu'a fait ensuite Raphaël Misrahi. Et en fait, c'est exactement la même époque que Raphaël et Raphaël m'avaient invité aussi. J'étais un de ses invités et je m'étais pas du tout rendu compte de la supercherie quand lui m'a interviewé. Donc j'étais aussi naïf.
Et cette période-là, c'est aussi beaucoup de cinéma. Le Bonheur est dans le Pré.
Ah oui.
Quinzaine de films en 3 ans. Bon Marché d'Edouard Molinaro.
Un tout petit rôle. Hein.
Fallait pas, Alliance Cherche-Doigt. Voilà, Alliance Cherche-Doigt aussi, c'est pas mal. Un souvenir de tournage avec Jean-Pierre Mocky, parce qu'on le décrit toujours comme un sacré personnage.
Ah bah c'est un sacré personnage. après, il m'a agacé sur le... j'étais pas très heureux de tourner avec lui.
On recommencerait pas.
Bon, c'est pas sûr.
Ouais.
Oh, quoi que.
Et la cantine, c'était problématique.
Non, ouais.
Vous aimez la soirée croix quoi?
Non, j'ai barré les jours. Et puis j'avais 18 jours, ce qui est énorme pour un film de Mocky. Et je me suis dit encore 17 à tenir. Et puis j'ai l'impression qu'il m'aimait pas trop, donc.
Ouais, ça reste un bon souvenir, quoi.
Non, c'est pas un bon souvenir. C'est pas excellent. Puis après, il nous a un peu. Il a dit c'est des fausses vedettes de Pardieu et moi, donc je veux pas trouver ça d'une classe infinie. Donc j'en disais beaucoup de mal après le tournage.
Mais vous avez arrêté d'en dire du mal.
Parce qu'il a quand même fait des films vachement bien.
À la Cité de l'Indicible Peur, formidable.
Oui, il y a plein de films.
Il est souvent décrié, Mocky, mais on oublie qu'il a fait quelques
chefs-d'œuvre. Il a fait des films formidables, et notamment avec Bourville et tout ça. Formidable. Là, c'était un peu. Ces films-là ont été un peu quand même vite faits, quoi. C'est pas mal de
un drôle de paroissien, c'était avec Bourville.
Un drôle de paroissien.
Pilleur de tronc.
Salopard. Oui. Et puis, il y a le film aussi sur la télé avec Dubillard. Oh, aussi. Non, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas en dire que du mal.
Que
non.
Du mal. Voilà. Un petit peu de bien. Allez, en passant, 2006. Ah.
Je t'ai acheté 2 cravates. Ah. Tu as mis la bleue avec des pois. Quand tu es venu pour le Shabbat. Pourquoi l'autre?
Vous avez reconnu François?
Oui.
Georges Moustaki?
Oui. Bonne réponse. Les mères juives de Moustaki, 2006. C'est le début de votre carrière de chanteur. Ah oui, parce qu'il faut bien revenir un peu à l'origine avec le spectacle Collection Particulière.
Et Moustaki était venu voir le spectacle un dimanche après-midi, je me souviens bien.
Et ouais. Alors, ça doit être très émouvant. Très...
Mais j'avais une belle relation avec Moustaki. Quand on a joué Les Précieuses Ridicules à l'Odéon, je m'étais dit, je joue à l'Odéon, dans un beau théâtre national, et je peux dire à 2-3 personnes que j'aime bien pour... qu'ils ont été importants pour moi, que j'ai de l'admiration pour tout ça. Et ça m'avait permis justement d'inviter Georges Moustaki. On avait gardé une belle relation, d'autant que la première fois où j'étais invité chez Georges Moustaki, je me suis enfermé dans les chiottes. Donc ce qui est un bon souvenir. C'est-à-dire qu'avant de passer à table, je vais aux toilettes, je mets la targette et au bout d'un moment, j'essaie de sortir, mon affaire faite. Et incapable de sortir, je devais
la chevillette et la bobinette,
je transpirais du bout des doigts terriblement, j'arrivais pas. Et il y avait toute la table qui était derrière la porte des toilettes. Faites pression avec votre pied sur la. Oui, j'étais arrivé deux fois. Faites appui. Donc ça nous a fait des beaux souvenirs. Et la fois suivante où je suis allé voir Moustaki, il avait dit un truc. Je tiens à dire à un certain monsieur que j'ai changé la targette et qu'il ne sera plus prisonnier chez moi. Donc le public a dû se dire, il doit parler du Chili ou de l'Argentine. Ou je sais pas quoi. Il parlait de la porte des chiottes.
Il était sympathique.
Il était très sympathique, ouais, il avait beaucoup d'humour.
Ah oui.
Une fois, je l'avais cité dans une de mes chroniques, en citant le mot d'Eddie Mitchell, en disant monsieur un volt 5, je crois. Et il m'avait laissé un message 5 minutes après, il m'avait dit, ne crois pas que je ne t'écoute pas.
On va se tourner vers notre invité spécialiste du jour, c'est Christophe Dejour. Bonjour, vous êtes psychiatre et psychanalyste et vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la situation du travail, la souffrance au travail. Le dernier, c'était donc la situation du travail aux éditions PUF en 2016. On reçoit François Morel, on l'a dit, pour son livre La vie, titre provisoire, livre CD, pour son recueil de chroniques Jamais la même chose aux éditions de Noël, et aussi, on y reviendra, pour un coffret DVD de 5 spectacles, toutes les pièces, en fait, Les habits du dimanche, La fin du monde est pour dimanche, Hyacinthe et Rose que j'adore, Bien des choses ou Instant critique, là encore. En gros, si on regarde juste l'actualité du moment de François Morel, Christophe Dejour, c'est un malade qu'on reçoit. Dans son rapport au travail, il y a tellement de choses.
Vous voulez faire de moi un dénonciateur ?
Vous êtes à la bonne table.
Pas sûr.
Pas sûr,
pas sûr. Non, je me pose des questions là, puisque j'assiste à tout ça depuis tout à l'heure. Et alors je me demande dans quelle catégorie il faut le classer, mais pas si facile que ça.
Hein. Est-ce que c'est un hyperactif professionnel ? Est-ce que, parce que je crois qu'il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs degrés. Comment est-ce que vous pourriez qualifier son rapport au travail ? On en parlera ensuite avec vous, François.
Talentueux.
Ça ouais, ça c'est génial. Déjà, c'est le bon sens, ouais, ça c'est bien parti.
Non, c'est pas, je ne le mettrais pas dans une catégorie pathologique. En tout cas, c'est ce que vous voudriez que
vous
je
fasse. Non, non, non. Vous connaissez hyper mal. Hein.
Mais en tout cas, pour revenir plus globalement aux personnes qui ont de nombreuses activités, qui passent beaucoup, beaucoup de temps à travailler, et on oublie François Morel, on y reviendra, François, sur le pourquoi d'une telle activité, cette envie, sans doute, ou
et on dira quand vous serez à Saint-Michel-sur-Orge.
Comment est-ce qu'on qualifie un addict au travail ? On entend beaucoup cette expression, les gens qui sont, voilà, addicts, qui sont hyper actifs, professionnels, workaholic, ouais, absolument. Comment est-ce qu'on les définit ?
On les définit par excès, d'une façon générale. C'est-à-dire, ça va assez vite de coller un diagnostic de ce genre. Il est workaholic, il est hyperactif, etc. Ce sont des gens qui travaillent effectivement beaucoup, mais parmi les gens qui travaillent beaucoup, il y en a plein qui ne sont pas workaholiques et qui ne sont pas du tout addictés.
Alors, comment on les détermine ? Comment on se situe là-dessus ?
Mais je pense que c'est plutôt un diagnostic d'élimination. Autrement dit, il faut d'abord voir s'il n'y a pas autre chose qui serait en cause que l'addiction. Par exemple, chez François Morel, voir s'il n'y a pas d'autres raisons pour lesquelles il travaille autant.
Le fric. Et... C'est très porté sur le fric, moi. Le pognon et la misération de la France à la marine. Ouais. Je peux vous dire que quand il sera à l'espace Saint-Simon le 16 mars, ce ne sera pas gratos. Oui, je vous en prie, continuez, je vous interromps.
Voilà, non, il y a il peut y avoir là-dedans aussi des très grandes satisfactions en perspective qui sont bien sûr pour nos voisins de la table ici essentiellement l'argent, mais peut-être pas pour lui.
Mais non.
Peut-être que pour lui, il y a d'autres gratifications
rapport,
qui sont
François,
plus en rapport avec.
Je fais surtout ce que j'aime, moi.
Ouais,
donc, et je passe d'une activité à l'autre. Je pense que si ça avait été un travail, peut-être que je me serais dit, il faut que je fasse une carrière, je me concentre sur un truc et je ne fais que ça. Moi, il y a plein de choses qui me plaisent dans la vie. Faire une chronique le vendredi matin, ça me plaît, ça m'excite, ça m'inquiète, mais ça me donne des satisfactions. Être sur scène, je crois que c'est mon plus grand bonheur. Donc, si je travaillais moins, je serais moins heureux parce que j'adore multiplier les moments où je suis heureux sur scène et où je partage des émotions magnifiques.
Il y a de l'angoisse à l'idée de rien faire ?
Ben pas tant que ça, parce que ça m'arrive de temps en temps de prendre 10 jours, une semaine dans le Morbihan où je ne fais absolument rien et je prends beaucoup de plaisir aussi à ne rien faire.
Donc voilà, François est sauvé, tout va bien pour lui. En revanche, Christophe Dejour, si on peut évoquer de façon un peu plus globale ce mal du moment aussi, parce que on dit que c'est pas forcément facile à catégoriser, mais dans quel cas on peut parler d'hyperactivité professionnelle, c'est-à-dire des gens qui ne déconnectent jamais, qui n'arrivent pas à s'accorder des temps de pause. Est-ce qu'on est tous égaux face au travail et face à notre implication ?
Il y a plusieurs choses. Je pense que bien sûr que les gens qui sont dont vous parlez, ils sont dans une hyperactivité qui prend beaucoup de temps dans la journée, 16 heures, 17 heures, 18 heures par jour. Oui, mais c'est une définition purement comme ça concrète et qui ne dit pas grand-chose de ce qui se passe en dessous. Or, ce qui vous intéresse ou ce qui nous intéresse, c'est ce qui est en dessous. Et là, il y a différentes configurations.
Il y a quoi comme configuration ?
Quelles sont-elles ?
Il y en a une qui est effectivement un certain nombre de personnes s'activent comme ça pour ne pas penser.
D'accord.
C'est-à-dire, à force d'être dans l'activité, d'être engagé comme ça dans des gestes, dans des surtout si ce sont des gestes répétitifs, c'est là que ça marche le mieux. Mais ça peut maintenant aujourd'hui atteindre des cadres qui occupent des fonctions relativement élevées, raffinées, très réputées, voire prestigieuses, mais qui n'arrêtent pas de bosser, y compris dans la banque, 14, 15 heures, 16 heures par jour, les décalages horaires, ils dorment la nuit sur quelques heures sur la moquette de leur bureau. Mais à force de travailler comme ça, en fait, ils arrivent à neutraliser leur fonctionnement psychique personnel, c'est-à-dire tout ce qui serait mobilisé par le rapport de soi à soi.
C'est plus poser de questions.
Donc l'inverse de ce que vous décriviez à propos de vos moments de vacances en Bretagne, ce moment, ces gens-là ne peuvent pas s'arrêter.
Est-ce que ça
Parce que s'ils s'arrêtent, les fantasmes et les angoisses reviennent. Et voilà, donc c'est pour fuir au fond ce rapport de soi à soi. Oui, ça, c'est une des configurations possibles.
D'accord. Et parmi les patients que vous avez l'occasion d'entendre sur le sujet, c'est plutôt en majorité des hommes, des femmes. Est-ce qu'on peut faire une distinction de ce point de vue-là ?
Non, je pense pas. Non. Je pense pas que ce soit genré. Je pense que voilà, ce serait bien. C'est plus souvent chez les hommes qu'on le décrit. Mais en fait, il y a aussi beaucoup de femmes qui sont comme ça dans une hyperactivité interminable, increvable. Il y en a ici, je pense, peut-être.
Non, je vous assure, je connais l'endroit.
On n'est pas hyperactifs.
François,
Et comment faire en sorte de ne pas se faire déborder par le travail? Parce que j'imagine que c'est facile de se faire enrôler.
C'est l'autre configuration, c'est celle qui n'est pas du tout volontaire et où, malgré tout, nous sommes amenés, pour un certain nombre d'entre nous, à travailler beaucoup plus que ce que nous souhaiterions.
Oui.
Alors, c'est un petit peu caricatural de le dire comme ça. C'est nous y consentons quand même. Par exemple, en ce moment, il y a une transformation très profonde de l'organisation du travail avec les gestionnaires qui ont pris le pouvoir et qui sont tout le temps dans la pression sur le chiffre. Vous savez ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance par le nombre, pour reprendre le titre d'un livre d'Alain Supiot, professeur au Collège de France, qui a très bien décrit cette espèce de mutation du monde du travail autour de la pression du chiffre. Alors, il faut faire du résultat quantitatif. Donc c'est le nombre de malades que vous soignez, pas la qualité du travail que vous faites auprès des malades. C'est le nombre de jugements que vous proférez ou le nombre de conclusions à des jugements. Donc c'est la pression du nombre. Mais plus vous faites sur la pression du nombre, plus vous détruisez ou vous nuisez à la qualité du travail. Si je vous fais faire trop de spectacles, il y a un moment donné où ça se dégrade la qualité parce qu'il n'y a pas
beaucoup,
le temps de la préparation. Pardon.
Il en fait beaucoup.
Oui.
Mais il garde en qualité.
Voilà. Et donc, pour un certain nombre d'entre nous, cette pression du chiffre, cette pression du nombre, à cause de la dégradation que nous ne supportons pas, parce que nous sommes engagés dans un métier qui n'a de sens que si nous respectons les règles de métier, le sens que ça peut avoir pour la société, le rapport au client ou le rapport au malade quand on est médecin, par exemple. Alors vous avez des gens qui essayent, pour compenser la pression du chiffre, de travailler plus, c'est-à-dire ils retravaillent en dehors des heures de travail pour essayer de préparer les dossiers à l'avance ou pour avoir le temps de rédiger convenablement des conclusions. Et donc ils travaillent. Mais c'est pour compenser quelque chose qui les met dans une situation telle que s'ils acceptaient de faire le travail à la pression du temps et des cadences qui leur sont imposées, les amènerait à trahir les règles de métier, voire à faire des choses que moralement ils réprouvent.
D'accord.
C'est-à-dire le juge qui travaille trop vite, il fait des choses qui à la fin le mettent dans une situation avec laquelle il est en désaccord profond.
Ouais.
Alors pour éviter ça, il travaille en plus. Donc, il travaille dans le métro, il travaille la nuit, il emporte les dossiers, il travaille
le dimanche. Et ça déborde sur l'espace personnel.
Partout.
Alors, comment faire pour borner ça? On est en début d'année, on est le 2 janvier, on a des bonnes résolutions à prendre, Christophe Dejour. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire à soi, déjà, pour éviter d'être constamment dans le travail, pour pouvoir
déborder.
Voilà, passer un peu de temps avec les siens, sans être totalement préoccupé par le dossier en cours, ou je ne sais quoi?
Bah, écoutez, c'est votre question est une mauvaise question.
Ah, merci, bonne année.
Il n'y a pas de mauvaise question.
Elle est mal posée.
Il y a des mauvaises réponses.
Essayez de trouver une bonne réponse.
Allez-y, Christophe.
Elle suppose au fond que la solution serait purement individuelle. Il faudrait que je trouve par mon génie propre le moyen de me limiter.
Pour ça, vous êtes invité, monsieur.
Non, mais
on compte sur votre génie.
Non, mais en tout cas, on peut quand même essayer de trouver une petite direction, soi-même, de déjà décider de se rendre compte qu'on passe trop de temps au travail ou qu'on travaille trop. C'est déjà un premier constat pour aller mieux, non?
Mais les gens s'en rendent très bien compte qu'ils travaillent trop, si vous voulez. Mais c'est quoi? Ils sont forcés malgré eux. Alors, si vous voulez, bon, il y a le moment où vous lâchez. Alors, vous voyez, on peut travailler moins, c'est-à-dire qu'on accepte finalement de saboter son travail, de le bâcler. Quoi.
Mm-hmm.
On peut aussi bâcler le rapport avec les malades. Hein. C'est ce qui nous arrive dans les hôpitaux aujourd'hui. Donc, vous faites de la série, vous faites du rapide. Et voilà, c'est une bonne façon de réduire sa quantité de travail. C'est de tant pis, ça s'appelle la maltraitance. Mais la conséquence, c'est la maltraitance des malades. Donc je
ça
pense
peut être
pas
aussi un problème d'organisation, on répondre, peut être aussi très mal
c'est
organisé.
C'est un problème d'organisation. Ouais. Et c'est pourquoi la question que vous m'avez posée est mal posée, parce que vous me demandez
en quelque sorte.
C'est vrai,
donc vous n'avez pas de solution en fait.
Je ne vais pas me laisser faire quand même.
Mais moi non plus, Christophe, deux jours.
Elle n'a plus fait de
gaffe. Non, faites attention.
Je vais me pousser, vous serez en danger.
Et donc l'idée, c'est que finalement, il n'y a pas de solution individuellement.
Venir consulter chez vous, en fait.
On est débordé, donc si vous voulez, on ne peut pas le faire. C'est effectivement un problème d'organisation du travail. Donc ça supposerait qu'une volonté collective se construise pour essayer de réaménager autrement l'organisation du travail et notamment lutter contre ce qui nous est imposé maintenant par les gestionnaires en termes de quantité, de reporting et de toutes ces choses par lesquelles on nous accable voilà, pour faire du chiffre.
Mais merci beaucoup Christophe Dejour. Je rappelle situation du travail au PUF en 2016 et donc il n'y a pas de solution.
Si, voilà. Il y en a une. Salvador Dali il disait, la plupart des gens travaillent pour gagner de l'argent, moi je gagne de l'argent pour pouvoir travailler. C'est la différence entre le travail et l'art. Et
ça, oui, sauf qu'on n'est pas tous dans un milieu artistique.
Oui, mais François Morel est un artiste. Voilà pourquoi
oui,
je dis ça.
Oui, oui.
Faudel disait, moi il y a 15 ans que je ne fous plus rien.
Et on a remarqué. Oui. On a remarqué François Morel qui sera à Annecy les 7 et 8 février. Et ça, ne passez pas à côté, les amis. Vous avez déjà une vie assez difficile comme ça.
C'est vrai.
François Morel.
On embrasse Belfort aussi.
Est avec nous. Belfort, c'est encore plus vrai.
Mais non, arrête.
Il est avec nous jusqu'à midi et demi en deuxième heure, donc en dernière demi-heure. Nous aurons Tanguy Pastureau qui va maltraiter l'info. Nous aurons le rêve de Gigi Lang, de Jean-Jacques Lang. Ah ben, il est déjà là, Pastureau. Pastureau, mon petit ami, au lieu de faire le malin. Il paraît que deux climatologues anglais sont hyper pessimistes en ce début d'année.
Oui, Daniel, on est foutus. J'ai été ravi de vous connaître, même si nous aurons surtout été des relations de travail. Hein, la faute à cette pudeur qui nous empêche de nous rapprocher.
C'est con.
Cette étude de la revue Nature dit qu'en 2100, la Terre aura pris 5 à 6 degrés de plus. Les accords de Paris prévoyaient 2 maxi. Ouais. Hein, on va avoir très chaud. Tous en slip.
Tous en slip, voilà, c'est une belle phrase de fin. Nous allons passer un peu de fraîcheur avec la cascade de questions.
Cascade
c'est bien ça,
de
Léla.
Questions. Questions courtes, réponses courtes. François Morel, on commence par Tom Villa.
Votre animateur de matinale préféré à France Inter.
À France Inter.
Eh oui.
J'écoute surtout Europe 1, moi.
Okay. Guillermo.
On vous voit pas souvent à la cantine.
Comment?
On ne vous voit pas souvent à la cantine.
Jamais.
Non, c'est pas bon.
Bah j'y suis jamais allé. Vous y allez vous?
Mais non, non plus.
Ah bah, c'est pour ça qu'on ne s'y va pas.
C'est pas terrible.
Ça s'explique. Albert.
Le départ de Patrick Cohen, vous l'avez vécu comment?
Oh bon, en même temps, c'est pas. J'ai regretté, en tout cas, parce que j'aimais beaucoup Patrick Cohen. On avait eu une bonne relation. On m'avait dit quand il allait arriver qu'il était très dur, que c'était très difficile de travailler avec lui. Moi, j'ai eu un homme chaleureux, sympathique, en plus qui adore la chanson. Donc, on avait plein de points communs. C'était des années formidables.
Daniel.
François Morel, on vous a vu au bout de 10 minutes quitter en courant le spectacle de Guillermo Ruiz. Pourquoi?
Trop de talent tue le talent.
Je comprends. C'est fini. Oh là, mais quel dommage. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi avec François Morel qui va nous parler de tout. Bienvenue dans la bande originale avec aujourd'hui Tom Villa.
Bonjour.
Nous sommes également avec Albert Algou.
Bonjour.
Guillermo Gouiz est également présent. Voilà. Évidemment, Tanguy Pastureau dans un instant, ce sera la maltraitance de l'info et notre invité Léla.
C'est François Morel, mon cher Daniel.
François Morel. Bonne année à tous, nous sommes le 2 janvier.
Attends, Nagui
n'est rythme, toujours pas là.
Moins de rythme.
Il n'est toujours pas là.
L'invité d'avant nous a donné trop de rythme, il faut repartir doucement.
Oui, c'est vrai.
Eh bien, on va repartir doucement en rappelant toutes les raisons pour lesquelles François Morel est avec nous aujourd'hui, au-delà du plaisir, bien entendu.
Je vous remercie,
enfin. La vie, titre provisoire, ce livre CD qui reprend toutes les chansons qu'on a eu la chance de découvrir sur scène. Et vous êtes encore sur scène pour une grande tournée, Daniel, une date.
Ah oui, alors là, je vais vous trouver une date, mais alors, une bonne date. Vous serez à Thonon, la maison des arts du Léman, ce sera les 26 et 27 janvier.
Une en tournée effet. Qui commence le 9 janvier et qui s'achèvera à l'Olympia en beauté le 4 mai. Mai.
Avec Yolande Moreau en première partie.
Wow. Génial. Qui va chanter?
Qui va chanter des chansons de Prévert, notamment. Elle vient de faire un spectacle avec Christian Olivier, qui est absolument formidable. Et donc, je lui ai demandé de venir chanter « Je suis comme je suis », notamment, et quelques autres chansons.
Ah, c'est super.
Une vraie première partie, justement.
Elle ne sera pas à Blagnac.
Non.
Elle sera pas à Blagnac et vous y serez les 3 et 4 avril.
C'est ça.
Une grande tournée pour François Morel. Également ce livre de chronique de 2015 à 2017, Jamais la même chose, chez De Noël, en collaboration bien entendu avec France Inter.
Et avec une préface du camarade gaucho humoriste.
Ah oui, Guillaume Meurice, pour revivre les belles chroniques de François Morel qu'il nous offre tous les vendredis à 8h55 sur France Inter. Vous restez toujours avec nous, hein, n'est-ce pas François?
Bah oui,
vous
je
quittez
crois,
pas
oui.
tous non. les matins, tous non. les matins, tous, non, les vendredis.
Tous les vendredis.
Et enfin le coffret 5 spectacles qui vous permet de voir ou de revoir de très très beaux moments. Que ce soit Les Habits du Dimanche, La Fin du Monde et Pour Dimanche, il y a pas mal de dimanches, Hyacinthe et Rose, Bien des Choses et Instant Critique, avec toujours cette même troupe, que ce soit Olivier Saladin,
moi,
on retrouve
veux,
Lucrèce Sacella, Antoine Salaire, qui est avec vous, qui a fait toute la musique en fait sur La Vie, titre provisoire, La Vie, juste pour vous redonner une petite idée, ce sont ces titres-ci. Alors allez, je commence par celle que j'adore.
Ce doux baiser que j'ai gardé.
J'adore.
Peut-être qu'il s'illumine à chaque
jamais,
fois.
Jamais
la chanson préférée de Daniel.
Ah. Quand tu enlèves ton chemisier, j'ai chaud juste.
Arrête.
Quand tu dégraves ton bustier, je n'en peux plus.
Je n'ai pas parlé de dessine-moi.
C'est vrai.
Quelque chose, un mouton, je m'en fous. Dessine-moi quelque chose qui nous parle de nous. Dessine-moi.
J'ai pensé à Camille.
Palpant le cul d'un veau, un petit enfant triste devant un.
Comme c'était il y a pas longtemps, petit hommage au petit Jésus.
Je n'oublie pas tes fantastiques talents dans les sports aquatiques, tes aptitudes d'orateur, tes facultés de guérisseur. Je t'évoque à Noël, à Pâques, mais je n'attends plus ton comeback, petit Jésus. Tu m'as déçu.
Ça vous plaît, mon père? Ah, c'est une chanson qui m'enchante, mais je pense que je vais procéder à un exorcisme flash.
Et on termine avec cette ode à la vie.
Et puis le silence, quand ça disparaît comme par magie. On ne sait jamais pourquoi ça commence.
Un très bel album de François Morel, La Vie, titre provisoire. Je vous invite à aller découvrir aussi sur scène, parce qu'avec vous, sur scène, François Morel, j'avoue qu'on passe un très très beau moment. Vous étiez au Théâtre du Rond-Point, c'est un peu votre maison, le Théâtre du Rond-Point.
Oui, c'est là où je l'ai créé à Paris, mais je l'ai rejoué aussi à La Cigale, ce qui était un plaisir aussi d'aller dans un vrai music hall. Je joue souvent. C'est un peu le pari aussi de la tournée, c'est d'aller dans des spectacles, dans des salles comme les scènes nationales, etc., les théâtres municipaux, et de temps en temps aller dans des lieux qui sont plus consacrés à la chanson, au musical, et pouvoir jouer dans les deux lieux.
Et Albi, par exemple, la semaine prochaine sur la scène nationale. Lui, on attend qu'il vienne sur une scène nationale.
Voilà,
mais bon, en attendant, il maltraite l'info. C'est Tanguy Pastureau.
Ah oui, Tanguy.
Tanguy, vous savez quoi?
Non.
J'ai envie de vous souhaiter une bonne année.
Eh bien, pas moi, Daniel. Allez, et je ne dis pas ça en réaction à vous. Vous avez tout pour être aimé. Une belle verve, une pilosité qui rappelle à chacun soit son chat angora, soit son lama, mais c'est plus rare, la faute au prix excessif du mètre carré en ville, et des yeux qui suintent l'humanité ainsi que les valeurs de la gauche sociale. Dans votre regard, je vois 1936, je vois Pierre Juquin, je vois des marquises dévorées par des communistes à moustache à la fête de l'UMA. Non, si je n'ai pas envie de vous souhaiter la bonne année, c'est parce que je suis pessimiste. Le 31 décembre soir, j'ai regardé ma dinde comme si c'était la dernière fois. J'ai regardé l'aile droite, l'aile gauche, c'est comme en politique, sauf que sur la dinde, le centre, c'est le croupion, et qu'en politique, c'est Bayrou. Dans un cas comme dans l'autre, personne n'en veut. Oui, je suis pessimiste quant à l'avenir de cette planète qui nous a donné le meilleur, Nabila, comme le pire, Balzac, ce laborieux à qui il fallait 11 000 mots pour décrire un paysage, que Nabila est capable de dépeindre d'un simple « putain, c'est trop beau ». C'est la catastrophe écologique, la fin des temps, et tout le monde s'en tape, à part Nicolas Hulot qui n'est pas pris au sérieux puisqu'il a la même coiffure que Dave. La Californie est en train de se transformer en désert, à tel point qu'on a vu Ramayad en train de la traverser. Il ne pleut plus. Au pôle, la banquise fond, ce qui est terrible parce que les ours polaires voient le danger arriver. Ségolène Royal en bonnet à pompons, qui avant était masquée par une grosse congère. La glace fondant, elle pourrait libérer des virus qui couvent là-dessous
nous depuis des millénaires. On va se farcir les maladies de Néandertal. Un jour, Daniel, vous direz, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai une insensibilité du bras droit, et là, paf, votre bras se détachera et tombera à terre. Ce qui fait que vous n'aurez plus aucune utilité.
Ce qui me rassure, c'est que vous lui montrez le gauche.
Là. Oui, parce que vous serez dans l'incapacité d'applaudir à la fin de mes chroniques. Ah, et des tas jamais. D'animaux sont en train de disparaître, comme le colibri, qu'on n'arrivait déjà pas à voir quand il y en avait, et pour qui un degré de plus, c'est fatal. C'est pourquoi on ne croise jamais de colibri dans un sauna.
Et il y a une étude publiée, Tanguy, dans la revue britannique Nature, qui est très alarmiste.
Oui, là, c'est cuit, on est foutu. Quand je pense que François Morel est peinard en train de promouvoir son livre, alors qu'animé par un sentiment d'urgence, il devrait déjà être en train de nous faire l'amour. Cette étude de climatologue, hein, ces gens pour qui Evelyne Delia, c'est comme André Rieu pour les types qui s'y connaissent en classique, dit qu'on pourrait prendre entre 5 et 6 degrés de plus à l'horizon 2100. Or, 2100, c'est bientôt. C'est la date qu'a choisi Michel Drucker pour prendre sa retraite. Sauf, a-t-il dit, s'il a encore la patate. 5 à 6 degrés, c'est énorme. Ça veut dire des étés à plus de 40. On va finir comme des porcs braisés. Sauf qu'on n'aura pas de roche en nous. Avant tout, parce que personne ne voudra nous en mettre une. En 2100, les gens seront aussi coincés qu'aujourd'hui. L'accord de Paris prévoyait de limiter la hausse des températures de 2 degrés maxi. Donc on se disait, c'est bon. On s'est affolé pour rien. Bébé démarre l'Audi à 3 diesel, on va à la boulangerie de l'autre côté de la rue. Mais ça, c'était si on arrêtait de cracher du CO2 sans limite. Or, depuis l'accord de Paris, rien n'a changé. Et en Chine, certaines villes sont tellement polluées que les gens vivent dans un nuage, comme les musiciens de Bob Marley en 78. À cause des particules fines, certains Chinois n'ont pas vu leur gosse depuis 10 ans tout en vivant dans le même appart. La prochaine fois qu'ils verront leur fils, il aura fini sa puberté et dira « Papa, je me casse, t'as été absent toute mon enfance ». L'autre répondra « Mais enfin, j'étais là, dans le salon, devant la télé. Je regardais le président Jinping vanter les mérites du président Jinping ». Bref, pour limiter la hausse des températures à 1 degré, il faudrait à partir de maintenant ne plus produire de CO2. Donc rester où on est sans plus jamais bouger. Et personnellement, je n'ai aucune envie de gâcher mon existence avec vous dans un studio de 14 mètres carrés, alors que je me casse le huc à écrire 5 jours sur 7 pour avoir les moyens financiers de vivre tout seul dans un F4. Donc tant pis pour la planète. Alors Patrick Brown et Ken Caldera, les deux climatologues qui ont fait cette étude, disent donc que le réchauffement sera pire que toutes les prévisions, même s'il faut voir le bon côté des choses. Plus 5 degrés, ça signifie la fin de ces horribles doudounes à capuche en poil de teckel. Fini les pieds froids du conjoint dans le lit en février. Bonjour le corps en feu. Vous couchiez avec Isabelle Huppert, vous allez vous retrouver avec Shakira si elle sortait d'un four à pizza. D'ailleurs, mais on n'aura plus peur de l'enfer, parce que sur Terre, il fera aussi chaud. Donc on pourra faire toutes les conneries possibles. Ça va être les 365 jours du stupre, le mondial de la capote. Donc bonne année quand même, on peut encore arranger les choses. Pour ça, on ne bouge plus.
Bravo, Tanguy Bastion.
La vie.
Silence, quand ça disparaît comme par magie, on ne sait
le
jamais.
Le livre, album de François Morel.
La vie, c'est aussi
scène.
Au Grand Quevilly le 21 février.
À côté de Rouen.
À côté de Rouen, un spectacle qui a été créé avec Antoine Salaire, on l'a dit, mis en scène par Juliette. Il y a aussi ce recueil de chroniques, Jamais la même chose, ou le coffret. Tout François Morel, 5 pièces, 5 spectacles. Et puis François, je crois qu'il y a aussi des projets au cinéma. On va vous voir bientôt dans la série Baron Noir, je crois.
Alors c'est pas du cinéma, c'est de la télévision.
Ouais, il y a le cinéma. Mais pour moi, c'est tellement
bien filmé.
Série,
c'est vrai que c'est bien.
Qu'on parlait du cinéma.
Ouais. Oui, Baron Noir, je crois que c'est à partir de la fin janvier, d'ailleurs, que ça
commence.
C'est
en janvier.
Fin janvier, ouais.
Et alors, vous incarnez qui ?
J'incarne Michel Vidal, qui est un monsieur qui a fait partie du Parti Socialiste et qui l'a quitté quelques années auparavant pour créer son mouvement, Debout le Peuple, qui se situe plus à gauche que le socialisme de gouvernement.
La première saison était formidable en tout cas.
Ouais, la deuxième s'annonce plutôt pas mal, toujours avec Kad Merad, avec Anna Mouglalis, Pascal Elbé aussi qui sera de la partie, je crois,
qui est
au casting, qui est un centriste absolument. Et donc ça, on retrouvera
Nils Sarrestrup n'est plus dans la deuxième saison. Il a été destitué à la fin de la première saison et on ne le revoit plus dans la deuxième.
Voilà, la politique, c'est dur. Où est-ce qu'on peut vous voir aussi bientôt ? Quels sont les projets du cinéma ?
Ah, je peux te le dire, on peut le voir là-bas. On peut le voir souterraine.
C'est le
souterraine, c'est le 9 mars.
C'est quoi le nom de la salle à la souterraine ?
C'est le centre culturel Yves Furet.
Yves Furet, oui.
C'est pas loin de la chape.
François, répondez-moi.
De quoi ? Quelle est la question ?
Les projets ? Vous travaillez sur quelque chose en particulier en ce moment ?
Je travaille sur un un projet de, d'un spectacle sur Raymond DeVos qui s'appellera J'ai des doutes. Super. Que je vais créer au mois de mai, là, dans quelques mois. À la Rochelle et que je vais reprendre au Théâtre du Rond-Point à la fin de l'année.
D'accord. Et du côté du cinéma
ou des séries plus, moi.
La télé
Non, c'est loin, ça. C'est tout, je crois.
En tout cas, le 3 avril, n'oubliez pas, vous avez rendez-vous à Blagnac. Nous, on a rendez-vous avec Jean-Jacques Lang, mais c'est juste après. Vanessa, Paradis, Divine Idylle. Vanessa Paradis dans la bande originale sur France Inter, toujours sans Nagui en vacances. Nous sommes le 2 janvier 2018. Bonne année à tous. Et oui, on est content de vous avoir, François Morel. Et je veux dire qu'André Dieu, ils seront contents, mais le 12 janvier, vous serez au Théâtre du Parc. André Dieu. Je vous le rappelle. Hein,
Donc pour La vie, titre provisoire. Allez,
au cinéma, comment qu'ils font
comment musique de Reinhard Wagner.
Eh oui. Vos camarades qui vous accompagnent souvent, c'est pas la première fois.
Il avait fait la musique et l'accompagnement du premier spectacle, collection particulière. Mais il est très pris par le cinéma, ce garçon.
Cinémascope, sans tomber en syncope, comment qu'ils font créneau de nom pour la respiration. Au cinéma, comment qu'on fait? Comment qu'on fait pour n'être jamais tué? Comment qu'on fait quand on est mort pour pouvoir vivre encore ou juste après être décédé, se mettre à rigoler? C'est pas facile, un assassinat, sauf sur l'écran du cinéma. Comment qu'ils font créneau de nom pour la résurrection?
On a pop song.
Je ne fais rien. Ma chaise longue, la vie c'est rien qu'une pop song.
Striptease, Daniel.
Quand tu oui, elle est là, je suis là.
Ah, oh.
2018 sera une année.
Quand tu dégraves ton bustier, je n'en peux plus.
Et je vous calme avec petit Jésus. Allez,
voilà. C'est mettre l'ambiance.
Talent dans les sports
chauffe-moi.
Bonne année à tous.
Orateur,
insupportable.
Tes facultés de guérisseur.
Je t'évoque à Noël, à Pâques, mais je n'attends plus ton comeback. Petit Jésus, tu m'as déçu. Juste après ta crucifixion, il y a eu ta résurrection. Tout le monde a crié chapeau. Vas-y prophète, tu déchires trop. Mais pas de renouveau depuis, même pas un petit tour de magie. Petit Jésus, tu m'as déçu.
Nous, je sais pas ce qu'il va nous évoquer, en tout cas c'est l'heure du rêve de Jean-Jacques Lang.
Il faut bien le reconnaître, les lendemains de teuf sont très éprouvants. Plus particulièrement le 2 janvier, en dépit de la présence de notre très cher François Morel, certainement c'est le jour de l'année le plus déprimant, le plus rasant, le plus languissant, le plus assommant, le plus barbifiant, le plus emmerdant. Je sais, chère Leïla,
oui.
Cher Daniel, vous allez me dire, continuez Jean-Jacques, venez-en au fait.
Pas du tout. Enfin, continuez. Venez
mais non, une colonne de Buren, je ne peux pas en venir au fait, puisqu'il n'y a plus de fête. Fini les teufs. Adieu réveillon, bye bye cotillon, au revoir Noël, adieu sapin, ciao Saint-Sylvestre, ciao boudin. Décidément, le 2 janvier est vraiment l'after le plus cafardeux de l'année, et moi, quand j'ai le cafard, je m'allonge en fixant le plafond, et quand je fixe le plafond, c'est ben, le plafond de Stark, je m'endors, et quand je m'endors, je rêve. Dans mon rêve, je me retrouvais à errer dans les couloirs de Radio France Inter, dont la moquette était encore jonchée de serpentins, de langues de belle-mère, de bouteilles vides, de verres fracassés, de coquilles d'huîtres, de strings à paillettes et de préservatifs à tête de Mickey. Quand soudain, je sursautais, interpellé par une voix martiale. Garde à vous, repos. Jean-Jacques, vous savez où est passé Albert Algo? Votre question tombe à pic, très cher Marshall Ganache, car je le cherche aussi. Cet enfant de salaud était supposé écrire un texte, plus précisément un rêve, se déroulant un 2 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui même. Rêve dans lequel j'étais supposé faire une apparition remarquée. Ni une ni deux, je me pointe dans ce rêve, mais là, pas d'Albert. Si ce type en avait dans le froc, il viendrait dans son rêve, au lieu de se planquer comme une flippette. Mais... vous savez, cher Maréchal Ganache, c'est peut-être parce qu'Albert a peur de s'ennuyer. Alors, que ce soit en rêve ou dans la réalité, il fuit le 2 janvier. Ah, moi aussi je fuis. Je fuis même de partout, ce qui m'empêche de rester longtemps à mon poste. Mais je vais vous raconter l'origine de ces fuites.
Oh non.
En fait, ma vie, taisez-vous, respectez ma différence.
Oh, bon.
De ces fuites qui ont fait de ma vie un cauchemar bien plus atroce que celui où nous nous trouvons en ce moment. C'était en 1942,
oh,
à La Châtre, on ne s'est pas encore produit François Morel, lors d'une réception donnée à la commande en tour, à l'issue d'une soirée baignoire, je me suis assis par mégarde sur un casque à pointe. Je profitais de... C'est Jean-Jacques qui reprend la parole. Je profitais de cette évocation. Faites les yeux fermés pour m'éclipser quand...
un bébé allume mon phare.
J'aperçus une silhouette pimpante, virevoltante, tourbillonnante, sautillante, sémillante, pétillante, costard rose, plateforme boots, chemise à jabot, chevelure blonde peroxydée. François, François.
Oui.
Salut Didi, j'ai pas le temps de discuter, tu sais pour moi, après les fêtes, c'est toujours la fête, le 2 janvier, c'est le début de mon hyper super méga tournée, sponsorisée par Zitrate de Bétaine et Alka-Seltzer. Très cher François, François, merde.
C'est l'accord numéro 2.
Je suis pollué, contaminé par François, François, tant j'ai d'admiration pour lui, et donc je reprends, très cher François, François, je piaffe, je trépigne, je boue debout, je suis tenu en haleine. Quel est le nom de cette tournée? Ah, tendre, gueule de bois, avec que des chanteurs alcoolos. Au moment où François François allait révéler les noms des chanteurs, mon réveil qui faisait « oui » quand il sonnait, « quand il tournait, « quand il marchait, mon réveil m'a tiré de ce rêve insensé. Alors bonne fin à l'émission et bonne année à tous, à toutes et à parenté.
Merci Jean-Jacques.
La bande originale. Sur
France Inter.
Mon cher Daniel, il est temps de présenter des excuses,
beaucoup
je t'en conjure.
Désolé pour tous les chômeurs qui m'ont appelé pour nous dire qu'ils s'étaient sentis très très peu concernés par notre débat sur l'hyperactivité au travail. Je vais dire un truc les gars, croyez bien, on aurait aimé être à votre place. Désolé pour Lionel Jospin qui a appris ce matin de la bouche de François Morel que les déchiens n'étaient pas complètement responsables de son échec en 2002. On a refait les calculs. Et quand même 91%, c'est un bon taux ça. Et désolé enfin pour les fans du créatif François Morel qui ont découvert qu'il avait piqué le titre de son album à un écrivain et l'idée d'une de ses chansons à Linda Lemay. J'espère que François Morel sera plus vrai, plus sincère le 23 février. À nos gens le retrouvent.
Promis.
Merci beaucoup François Morel. La vie, titre provisoire à retrouver en librairie et aussi sur scène. Merci François, c'était un plaisir.
Merci.
Merci, bonne année. Et demain on se retrouve avec André Manoukian.
Spécial Inter.
Il va y avoir du retour.